Moment documentaire. Les mardis après-midi. Vous êtes sur JetFM 91.2 et vous êtes sur le point d'écouter À l'ombre des volcans. C'est le cinquième épisode de la série en 7 épisodes 6m50 de Domitille de Vevey. Une série documentaire sur la traversée de l'Atlantique en voilier en solitaire dans le cadre de la course Mini Transat. N'hésitez pas à retrouver le reste des épisodes en ligne ou sur le site de JetFM.
Marina de Santa Cruz de la Palma. Cela fait 15 jours que le dernier des bateaux de la flottille est arrivé. Ce soir, c'est la remise des prix intermédiaires, celle qui célèbre la première étape.
Donc en série, en troisième position, Callisto Aerofab, Bruno Lemunier.
Sur le port, c'est Ginto, plongeon sauvage et nuit blanche. On fête l'arrivée de tout le monde aux Canaries. On profite.
Le climat, c'est assez royal. Bah, depuis qu'on est arrivé, il y a eu très peu de vent. Il fait hyper chaud la journée. Très bonne ambiance et on n'arrête pas de faire la fête.
La détente, une question se pose. Comment se prépare-t-on à l'inconnu? Car au bout de l'escale, c'est l'Atlantique qui attend Bruno. 12 à 15 jours de mer, seul, sans contact avec la Terre. Et personne ne peut vraiment prévoir ce qu'il va se passer. 6 mètres 50.
Un mini. C'est un bateau de 6,50 m qui est destiné pour faire de la course au large en solitaire.
Un documentaire de Domitille de Vevey.
On est à 200, un peu plus de 200 000 de l'arrivée, du coup normalement demain on arrive. Allez !
Bruno, le genre de Pokémon qu'on aime croiser. J'ai eu son bateau sur la ligne de départ au Sable d'Olonne, je me suis dit lui, j'ai envie qu'il gagne. Pourquoi ? Parce que son bateau est tout simplement incroyable. C'est le seul qui a osé, qui a vraiment fait un truc genre délire de A à Z. Bruno, on se revoit en Guadeloupe et j'espère que tu seras ben, genre premier quoi.
Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Top !
Épisode 5, à l'ombre des volcans.
Avant, il y avait un lac.
Dans l'épisode précédent, Bruno a pris le départ de la Mini Transat de 2023 à bord de Callisto, un mini dont il a confié l'habillage de sa coque et de ses voiles à une artiste haute en couleurs. Au fil de la première étape, il s'impose en outsider et passe plusieurs jours en tête de la flotte. Il arrive finalement troisième au classement intermédiaire en série, ce qui fait de lui un des favoris de la course. Je suis Domitille de Vevey et je vous promets que ce documentaire ne laissera personne à terre.
Ok Bruno, on est quel jour ?
On est le 15 octobre, on repart le samedi 28 octobre, donc dans 2 semaines exactement, des Canaries. Je suis arrivé il y a une dizaine de jours, je suis arrivé le 5 octobre je crois. J'ai mis 11 jours à venir. Je suis là depuis 10 jours et j'arrive à peine à me remettre, à me reposer de ces 11 jours de course où j'ai pas beaucoup dormi.
Je retrouve Bruno un peu cabossé par la privation de sommeil.
On a fait la fête sans arrêt et j'avais du mal à dormir la nuit, à dormir plus de 3 heures, à me recaler sur un rythme normal en fait. Du coup, c'était un peu galère quoi. Mais là, ça va mieux. Et je commence à finir de bicher le bateau et je suis presque prêt pour repartir sur la deuxième là.
L'escale, C'est un moment de relâche entre deux efforts intenses, comme nous l'explique Emmanuel Versace, qui travaille pour la classe mini en tant qu'organisateur des courses 2023 et 2025.
C'est vrai que la course mini a d'autant plus cette dimension de connexion avec tout le monde, comme les colonies de vacances quand on est gamin, quoi. On est un peu en autarcie, là. Il n'y a pas de Français sur l'île, donc les seuls Français qu'il y a, c'est les coureurs. Donc ils restent très souvent entre eux, ils sont tous jeunes, ils sont tous beaux, ils s'amusent, ils sont dans la force de l'âge. En tout cas, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a des groupes d'amis, on a vraiment de l'entraide entre skippers. Aujourd'hui, il y a une dimension de camaraderie.
Vraiment y aller.
C'est toi, plaisir.
Ah ouais, je vais me faire plaisir, c'est trop moche.
Une camaraderie qui s'incarne dans un squattage en règle des pontons, au programme, réparation collective, apéro et même un salon de coiffure improvisé.
Hermine, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est en train de se passer là?
Bah en fait, comme on part bientôt sur la deuxième étape, ces messieurs se font une petite coupe de printemps. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire en demandant aux potes avec des ciseaux rouillés. Et voilà, je pense que vraiment ils vont être beaux comme tout, mais au moins ils ne seront pas embêtés par leurs cheveux, les petits chanceux.
Sur les 87 skippers qui sont arrivés à La Palma, 15% sont des femmes. C'est un vrai sujet sur lequel la classe mini travaille, assure Jean-Marc, son président. Hommes et femmes courent ensemble sans distinction. Les pontons, au lieu de sociabilité, sont l'endroit où nous passons pas mal de temps. Le lendemain, Bruno bricole sur son bateau et je lui demande ce qu'il lui reste à faire.
Je sais pas, parce que j'ai mon téléphone qui est passé à l'eau et du coup j'ai plus ma liste.
Son smartphone a fait un plongeon dans l'eau de la marina depuis sa poche il y a quelques jours. Heureusement, il a pu commander une carte SIM et un téléphone de secours rapidement.
En vrai, c'est pas mal, hein.
Une petite galère à terre peut vite devenir un enfer en mer. Et c'est là que l'entraide fait la différence.
Alors Mickaël, tu viens tester sur mon bateau, là, tel que je te vois venir. Tu vas vouloir tout débrancher ma boîte de jonction.
Le capteur est mort. Ça marche très bien avec mon spare et...
Ah, ça va cher.
C'est quoi?
C'est les infos vent. Enfin, c'est le capteur au sommet du mât, un émo-girouette qui fait mon info vent. Marchait très bien en arrivant ici et puis en faisant mon contrôle de routine pré-transat, évidemment ça marche plus. Donc Bruno m'a gentiment prêté du matériel qui facilite les essais. Je peux brancher sur ton bus NK Ou ça te fait chier?
Non, tu peux le faire.
Je me branche.
Mickaël, c'est un des copains du pôle d'entraînement de Concarneau. Un camarade de route, mais aussi un adversaire direct. Il est arrivé juste devant Bruno lors de la première étape à 5 heures près. Il s'installe dans la cabine de Callisto pour tester son capteur sur le matériel de Bruno. J'en profite pour lui demander ce qu'il pense de la solidarité entre les marins de la Mini Transat.
Moi, je trouve ça très cool parce qu'on a chacun nos compétences et nos spécialités. Et quand on est sur le ponton, bah, on s'aide, même en mer, en fait, on s'appelle et on cogite ensemble. Et c'est cool parce que bon, dans l'adversité, on s'entraide et en même temps, on se tire la bourre, quoi. Ça donne une ambiance agréable. Ah, génial, tu vois, regarde.
Panne, ah ouais.
16 nœuds, tout pareil. Et mon angle, il est bon, hein, parce que là, il est posé dans un sens, si je mets dans l'autre sens.
La course au large, c'est un mélange de technique, d'endurance, de mental, mais aussi de stratégie. Comme aux échecs, un seul coup peut tout changer. À l'arrivée à La Palma, Bruno était quatrième en série. Mais un redressement du jury est venu rebattre les cartes, car un de ses concurrents, Justin Barada, a commis une faute.
Justin qui a écopé d'une pénalité hyper sévère par le jury parce qu'en fait il a eu une collision pendant la course avec un autre concurrent. Bah, c'est très dommage pour Justin parce qu'il était en très bonne position pour faire un très beau résultat et là bah, il prend 24 heures. Donc c'est 24 heures de pénalité sur la deuxième étape à rattraper, quoi.
Le nouveau podium en série est ainsi composé de Mickaël Jean Debien en première position, de Titouan Kivigé en deuxième et Bruno en troisième.
Ça fait que moi, là, je suis en très bonne position pour un beau résultat. Après, je sais que tout le monde m'attend maintenant au tournant et que je suis très observé. Mais moi, là, l'objectif, c'est vraiment de continuer à naviguer comme j'ai fait et de ne pas suivre les autres et de ne pas trop les regarder, de ne pas regarder les classements quotidiens. Parce qu'en fait, c'est tout à fait possible que je fasse 20e sur la deuxième étape. Il ne faut pas que ce soit une déception parce que ce n'est pas comme ça que j'ai vécu mon projet depuis le départ. Et donc, voilà. Mon résultat est déjà fait, là.
Bruno dit éviter de scruter la trajectoire des autres à l'AIS, le système qui affiche en direct la position et la vitesse de chaque bateau. Il sait également que l'inverse n'est pas vrai. En faisant le tour des pontons, je croise Frédéric Bach, qui s'est souvent entraîné à ses côtés à Concarneau.
Bah Bruno, il est assez énervant parce que pendant ces 2 ans, il a été tout devant. Enfin voilà, il a bien mené son projet, il s'est donné quand même vachement. C'est la personne qu'on regarde souvent à l'AIS en termes de vitesse et de placement parce que il arrive à aller plus vite. Donc c'est un des meilleurs Pogo 3 avec Thomas André. Donc en général, je suis un peu derrière.
Le classement, c'est un jeu cruel. Il peut tout récompenser ou tout balayer. Mais dans quelques jours, les chiffres disparaîtront. Devant l'océan, personne ne peut savoir qui aura l'avantage. Alors, autant en profiter une dernière fois lors de la parade en mer. Pour créer du lien avec les habitants de l'île aux trois volcans, des lycéens espagnols montent à bord des bateaux de course qui vont ensuite défiler devant la ville étagée de Santa Cruz. Comme Bruno a terminé dans les 30 premiers, Callisto fait partie de la fête. Et bien sûr, je me suis incrustée.
Ok, c'est parti.
Le bateau prend de la vitesse tandis que nous sortons du port. Bruno est heureux d'être en mer. Moi, beaucoup moins. Mais c'est l'occasion d'un petit passage de relais. Je lui apprends à utiliser mon micro et mon enregistreur qu'il emportera pour traverser l'Atlantique.
Tu le prennes plus par support.
Bon ben voilà, c'est la fin de la parade. De retour à Santa Cruz de la Palma avec nos deux équipières qui se sont un petit peu vidées de leur petit-déj. Bon, je suis pas sûr que ça la fasse rire. Que je l'enregistre en train de vomir. Pauvre Domitil. Tout va bien se passer, on a un quart d'heure de l'arrivée.
Pour mon plus grand malheur, nous devons en fait poireauter une demi-heure le temps qu'un ferry passe juste à l'entrée du port. Alors, pour me changer les idées, je demande à Bruno à quoi il pense quand il regarde ses voiles.
Bah, j'aime bien parce que ça me fait des petits souvenirs de toute l'étape de création du truc avec Julia, quoi. Ça raconte toute une histoire, ces voiles, et c'est vrai que ça m'accompagne bien dans mon petit voyage, quoi. J'ai même nommé un peu les animaux, j'aurais donné des petits noms et tout.
C'est vrai?
Ouais.
Tu les as appelés comment?
Alors le dino s'appelle Didier. Le totem de l'autre côté c'est Toto. Après, l'espèce de déesse qui verse sa corne d'abondance là, c'est Jenny. Et puis de l'autre côté, il y a le dieu du hasard. Et lui, je ne lui ai pas donné de nom, je l'ai laissé dieu du hasard. Et le Spiros, c'est Max. Et le pilote automatique, c'est Michel. Et il y a bien sûr Paperina, la petite peluche que Carmen m'a laissée et qu'elle va récupérer quoi, à mon arrivée en Guadeloupe. Carmen, c'est ma nièce, c'est la fille de mon frère jumeau.
Sacré voyage pour Paperina.
Hein. Quand même.
Même les marins les plus aguerris ne sont pas à l'abri du mal de mer, ce passager clandestin qui frappe si l'on est mal préparé. Pour l'apprivoiser, on dit qu'il faut veiller aux 5 F. Le froid, la faim, la fatigue, la frousse et la foif. Enfin, la soif. En clair, garder le ventre plein, bien s'hydrater et ménager son corps. C'est pour ça que la nourriture n'est jamais un détail en course. Un soir, je retrouve Bruno penché sur ses sachets lyophilisés, en train de compter ce qui seront bientôt ses repas.
Alors, je déballe. Là, j'ai un taboulé oriental. J'ai beaucoup de taboulé, je crois. Là, j'ai le steak haché écrasé de pommes de terre. Ça, c'est pour les petits moments un peu durs. Là, j'ai le petit déj gourmand. Œuf, bacon, saucisse, pommes de terre. Adoc, lentilles, risotto, poulet, cèpe. Alors, celui-là, il est trop bon, mais faut rajouter du riz. Faut que j'achète du riz. Épaule d'agneau aux épices douces et lait de coco. Sauté de porc à gros doux. Là, j'ai un breakfast merguez. Porc au caramel, il est trop bon. Je l'ai redécouvert sur la première étape. Un main d'aillon de porc à l'échalote et aux oranges sanguines. Bon, c'est un peu viandard. À la fin, t'as envie de devenir végétarien, clairement. Salade printanière. Ça, j'en ai qu'une, je crois. J'ai pas mal de haddock, quand même. J'en ai 6 sachets. C'est quand même beaucoup. 7. Je vais peut-être essayer de faire du troc.
Du troc avec les autres skippers.
Ouais. Parce que c'est pas très varié, tu vois, ma bouffe. Ça, c'est les petits déj que je me suis confectionné avant le départ.
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à du muesli avec beaucoup de chocolat, des raisins secs, des graines, du lait en poudre.
Et comment tu fais pour réchauffer ça?
Bah, tout ça, je l'ai fait réchauffer au bain-marie. Donc, en gros, j'ai un contenant, une sorte de truc isotherme, là, où je mets le sachet directement avec de l'eau chaude. Et une fois que c'est chaud, j'ouvre et je mange.
Et du coup, tu te fais combien de repas par jour? 3?
J'essaie à peu près de me rythmer je me demande s'il n'y a pas un café sur le feu, tu peux me suivre. De me rythmer comme d'habitude, comme à la maison. Un repas le matin, un repas le midi, un repas le soir. Et après, tenir la nuit en grignotant. Mais en fait, là, sur la première étape, j'avais tendance à manger très tôt. Donc le matin, le petit déj, je le prenais à 7h. Je retardais au max pour prendre un déj à midi et demi. Et à 19h30, 20h, j'étais déjà en train de dîner, quoi. Du coup, la nuit, ensuite, elle était un peu longue. J'étais obligé de trouver des solutions pour pas avoir trop faim.
Compter ces sachets lyophilisés, c'est aussi compter le nombre de jours que l'on pense passer seul en mer. Mais solitaire ne veut pas dire sans filet. Au large, une équipe veille. Emmanuel Versace.
Il y a obligation d'avoir des bateaux accompagnateurs qui relaient la météo, mais ils sont là également pour avoir un soutien technique en cas de problème, de gros problèmes, et psychologique également. Sur la longue traversée entre La Palma et Saint-François en Guadeloupe, c'est long, il peut avoir des coups de mou. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'aide, mais en aide psychologique, en disant « bon, écoute, vas-y, tu tiens le coup, t'inquiète pas, on est dans le coin, il te reste tant de milles, vas-y, courage ». Ça, ils ont le droit de le faire. Ce sont les yeux et les oreilles et les anges gardiens des bateaux.
Et au-delà d'eux, c'est tout un écosystème qui gravite autour des skippers. Les directeurs de course, Annabelle Moreau et Denis Hugues, les arbitres, secrétaires, coachs, routeurs météo, préparateurs, bénévoles, chacun, à sa manière, façonne cette traversée. À la tête du comité technique, Virginie Trarieux vérifie et scelle les sacs de survie de chaque skipper.
Ça, c'est le sac survie. Là, ils ont de quoi appeler un cargo avec leur VHF. S'ils se retrouvent à l'eau, se signaler, il y a des feux, en fait, des feux à main, fumigènes et tout ça. Donc, ils peuvent se signaler aussi. C'est leur vraie bouée de sauvetage, ça.
Il y a des lampes, il y a une ration de survie, de nourriture.
Voilà, ouais. Et avec ça, ils ont aussi un bidon d'eau, qui est à part, mais pareil, qu'ils n'ont pas le droit de déplomber.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, plomber ?
Eh ben, en fait, on le scelle pour pas qu'ils l'utilisent. On veut être sûr qu'ils ne l'utilisent pas avant qu'ils en aient vraiment besoin.
Donc là, tu es en train de mettre des fils de fer et un petit plomb.
Voilà, c'est ça. Et quand ils arrivent, je vérifie que les plombs sont toujours présents. Et du coup, en fait, l'idée est vraiment qu'ils ne touchent pas. C'est l'équité sportive. On veut que tout le monde ait la même chose et qu'il n'y ait pas de doute à avoir.
À 2 jours du départ, l'organisation a fixé un waypoint au milieu de l'Atlantique. Une bouée virtuelle, un simple point GPS que chaque skipper doit obligatoirement franchir comme un drapeau invisible planté en plein océan. Cette contrainte réduit les options de route, mais ne supprime pas la complexité. Maintenant, l'enjeu n'est plus tant la préparation technique du bateau que la stratégie météo. Après le plombage de son sac de survie, je retrouve Bruno et Michael penchés sur l'ordinateur de Carlos, concentrés sur un logiciel qui m'a l'air bien complexe. Je demande à Bruno ce que c'est.
En gros, là, il est en train de calculer un routage, donc c'est une simulation de route. Ce dont on parle, c'est les performances du bateau en fonction de la direction et de la vitesse du vent. Là, il y a un fichier vent qui a été téléchargé. Du coup, on peut calculer la vitesse du bateau. Donc là, toutes les lignes que tu vois, c'est des hypothèses de route, quoi.
C'est plutôt rapide, mais quand même.
Moi, je signe en bas de la page.
Hein ?
Je signe en bas de la page.
En 13 jours ?
Ouais. Ensuite, on va avoir une météo mise à jour, mais avec des informations très sommaires et pas du tout aussi précises que ce qu'on a là. Et du coup, là, ça nous permet de faire de l'analyse pour s'imaginer ce qu'on pourrait avoir en mer. Mais évidemment que ça se réadapte en mer. Mais on n'a plus les mêmes outils.
C'est une des caractéristiques fondamentales de la Mini Transat. Il s'agit d'une course sans assistance ni communication avec la Terre. Les skippers n'ont ni smartphone, ni ordinateur de bord. Sur l'eau, tout repose sur leurs cartes, leurs compétences et sur la vacation VHF, ce bulletin météo succinct qu'ils reçoivent par radio deux fois par jour. Le temps semble filer de plus en plus vite au fur et à mesure que la date de départ approche. Nous sommes dans l'habitacle de Callisto et je note que nous sommes désormais à 22h du départ, ce qui laisse Bruno impassible.
Ton bateau est vide.
Ouais, ce qui est très très bien rangé. Il paraît vide, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de sacs. J'ai un sac de bouffe, un sac de fringues, deux sacs de matos. Et après j'ai une petite caisse à outils, mon sac de survie, j'ai ma pharmacie. Assez blanc et des voiles. Efficace, hein. On vit avec peu de choses, en fait, quand on fait l'effort de tout virer.
Tu es en train de faire la liste de qu'il reste à faire ?
Ouais, c'est ça. Je reprends ma to-do list. Le gaz, c'est bon. Le fauteuil de bar, tant pis. Café Tilly, j'ai pas trouvé. Ticlerie, c'est bon. Les chaussettes, il faut que je fasse ça, c'est fait. Pa, il ne reste plus rien.
Donc pas stressé en fait.
Ça va, mais c'est vrai que ouais, j'apprends un petit peu parce que c'est l'étape la plus longue que je vais faire. On fait 2800 milles, j'ai jamais fait autant en solitaire. En plus, très probablement en mode rapide, un peu engagé physiquement. Et quand il y a du vent, on a toujours plus de risques de casser des trucs, de se blesser ou voilà. J'ai besoin de partir pour aller au bout de tout ça, de ce projet-là. Et là, c'est un peu la dernière étape, un peu le grand saut et tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'appréhende, que je suis dans un mix un peu d'excitation, d'appréhension. C'est un peu difficile à décrire et à partager. Et c'est une période particulière, quoi. Donc, je crois que je suis aussi très impatient.
Je pense aux pleurs, tu es ma douceur. Je danse en cœur, je vis mes peurs. Je pense aux pleurs, tu es ma douceur.
Dans la grande salle de travail de la marina, leur gars s'est installé pour récupérer les téléphones portables des 87 skippeuses et skippeurs, qui sont ensuite gardés précieusement dans des sachets de congélation avec le numéro du bateau écrit dessus.
C'est tout bon. À la limite, ouais,
c'est quoi ton numéro ?
Bruno laisse un ultime message à son groupe WhatsApp.
Bon, ça y est, je rends mon téléphone là, je vous embrasse. C'est deux semaines trop stylées qui s'annoncent pour moi, donc vous inquiétez pas pour moi. Bisous.
Enfin libre.
Y'a plus qu'à.
Sur les pontons, je croise le chemin d'Anne-Gaëlle Gourdin qui a couru sur la Mini Transat de 2021 et qui travaille en tant que préparatrice pour quelques bateaux. Sa fine connaissance du milieu en fait une bonne analyste
de ce que peuvent ressentir les concurrents de la Mini Transat à quelques heures du départ.
Là, ça y est, c'est le vrai départ pour la Grande Traversée, pour aller aux Antilles. Au Sable d'Olonne, c'est le départ qui est très chargé en émotions parce qu'on quitte la famille. Mais en réalité, on part dans quelque chose de connu, une dizaine de jours de mer. C'est comme les Sables, les Açores, les Sables, c'est un petit peu comme la qualification hors course. Mais là, ils partent dans l'inconnu parce qu'ils partent pour peu ou prou entre 12 et 15 jours de mer. Une fois qu'ils ont passé la pointe de El Hierro, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller de l'autre côté.
Les au revoir sonnent différemment qu'au Sable d'Olonne. Plus détendu.
Bon, 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 en tout cas, on va pas trop vite quand même.
Juste plus vite que le deuxième.
J'ai essayé déjà d'aller plus vite que toi.
Allez, c'est le départ là. C'est le départ de Bruno.
Allez, Bru !
Hey, Bruno !
Allez, Bruno !
Les messages continuent d'affluer dans le téléphone désormais éteint de Bruno. Grâce au groupe WhatsApp, tous savent qu'il est sur le point d'accomplir ce qu'il prépare depuis 2 ans, à l'instar de Grégoire.
Coucou Bruno, ben là je suis avec le Fut-Fut collectif dans un bateau. Et on voulait te dire un petit mot.
Bruno, il va gagner. Bruno, il va gagner.
YOLO, you live one life, disent certains. Ce qui est sûr, c'est qu'à bord d'un voilier comme en fin de soirée, l'idée même de dormir finit par se dissoudre. Mais quand on vient à manquer de sommeil pendant 10 jours d'affilée, la lucidité en prend un coup. Le problème, c'est qu'en mer, les coups peuvent être fatals. On dormira quand on sera mort, c'est le nom du prochain épisode de 6m50. Écriture, réalisation, montage, Domitil de Vevey. Mixage et soutien inconditionnel, Fabien Bourlier. Musique, Chamaille. Photographie, Vincent Olivo. Création visuelle, Julia Luisa. 6m50 est une histoire originale soutenue par la brasserie artisanale Aérofab. Ensemble, nous avons créé une bière dont l'étiquette reprend le visuel imaginé par Julia Luisa pour Callisto. Vous avez aimé ce podcast ? Parlez-en autour de vous. Merci.
Parfait, elle est bonne celle-là.